Maintenant, une prédication du frère Leisinga, conducteur spirituel d'une communauté du plein évangile aux Pays-Bas. Le baptême par immersion. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire quelques textes du livre des Actes au chapitre 16. J'ai décidé de parler du baptême par immersion. Le Seigneur a mis ce sujet dans mes pensées et il l'a confirmé durant le moment de louange. Le chapitre 16 des Actes, à partir du verset 16 au verset 34 raconte l'histoire du geôlier de Philippe et explique comment il parviendra au baptême. Lisons ensemble cette histoire. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent une voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers le magistrat. Ils les amenèrent au prêteur et dirent « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui proclament des coutumes et qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de pratiquer, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir arraché leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verge. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et le prisonnier les écoutait. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba, tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à 7 heures même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Au verset 30, nous avons lu « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Cette même question se rencontra également sous d'autres formes. Que dois-je faire pour être libre, pour être guéri, pour être restauré intérieurement, pour obtenir du repos ou la paix? Que dois-je faire pour me développer, pour obtenir la victoire sur les ennemis spirituels, c'est-à-dire les esprits méchants, qui m'attaquent continuellement? Que dois-je faire pour obtenir un meilleur mariage ou pour avoir une plus grande harmonie dans mon foyer? Il est merveilleux que nous ayons découvert que la Bible répond à ces questions. Bien sûr, cela ne vient pas tout seul. Il faut chercher la réponse dans la parole de Dieu. Il s'avère que, dans beaucoup de situations, la Bible contient la réponse que l'on recherche. L'apôtre Paul dit aussi à juste titre au verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Si tu te demandes dans ton cœur « Que dois-je faire ?» alors la Bible dit « Mets ta confiance dans le Seigneur Jésus. » Alors les gens répondent quelquefois « C'est trop facile à dire. J'ai entendu cela maintes fois et je l'ai moi-même dit jadis. Dans une situation difficile, je l'ai quelquefois répété. Cependant, j'ai aussi appris à dire alors, même si c'est difficile, je vais le faire quand même. Car placer sa confiance dans le Seigneur est quelque chose que l'on doit faire soi-même, que l'on doit pratiquer. Ainsi, la parole de Dieu peut devenir vraiment réalité dans notre vie, dans ta vie. Elle peut alors entrer vraiment dans ta vie, vivre en toi et renouveler ta vie. À la fin du verset 31, l'apôtre Paul dit à juste titre, « Et tu seras sauvé, toi et ta famille, ou ta maison. » Ceci est valable pour chaque être humain qui veut placer sa confiance en Jésus-Christ, car il en découle, le salut est pour quiconque croit. Le mot salut est souvent interprété comme le fait d'avoir la vie éternelle. Tu as alors la vie éternelle, tu es sauvé, tu es donc arrivé. Mais le mot salut contient beaucoup plus. Ce mot salut signifie que ton humanité va entièrement apparaître en toi. Toutes les possibilités qui sont en toi vont se développer et tu vas pouvoir en disposer. Avoir le salut signifie que nous pouvons rester nous-mêmes en notre fort intérieur, quelle que soit la situation, l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons. Nous n'avons pas à paniquer en nous demandant avec désespoir « Que dois-je faire maintenant ?» Nous pouvons, au contraire, envisager les circonstances difficiles en ayant la paix dans son cœur. Voilà le salut que Dieu a pour nous. Dieu a donc un but élevé avec nous et le baptême met cela en évidence. Le baptême concerne Dieu, nous-mêmes et le but que Dieu a pour notre vie. L'Ecclésiaste dit au chapitre 3, verset 11, « Tout ce que Dieu a fait est beau en son temps, et même il a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. » Le désir de participer à l'éternité existe en chaque être humain. Nous avons tous le désir d'en avoir un aperçu et de savoir ce qui s'y passera. Comment y participerons-nous? Nous le saurons quand nous ne demeurerons plus sur la terre. L'homme désire connaître tous les secrets de la création et en particulier savoir comment cette création existe. Ces réflexions sont innées dans l'être humain car Dieu les a placées dans l'homme en les créant à partir d'une masse informe comme le dit le psaume 139 au verset 16. Dieu a façonné l'homme de manière à ce qu'il puisse arriver à dire « Je veux savoir qui est Dieu ». Je veux découvrir qui il est, comment il vit, comment il agit. Cette idée de la recherche est reprise dans Actes 17, versets 26 et 27. Et Dieu dit, en ce qui me concerne, « Je vais te chercher car je veux savoir qui tu es et je désire te révéler ma nature et tout ce que j'ai. » Voilà Dieu. Dieu est ainsi. Il désire que nous devenions des hommes faits, comme le dit le deuxième épître de Timothée au chapitre 3, verset 17. Il est écrit en Matthieu 5, au verset 48, que Jésus désire que nous soyons parfaits comme le Père. Dieu veut que nous participions à sa nature divine, décrite en 2 Pierre 1, verset 4. Conformément au verset 4 du chapitre 7, de la lettre aux Romains, Dieu veut que nous portions du fruit, pas seulement ici-bas sur la terre, mais aussi devant Dieu dans le ciel, c'est-à-dire le monde spirituel et invisible. Et pour cela, Dieu nous a montré un chemin et dit, « C'est pour cela que je vais parler. Je vais donner beaucoup de paroles. Elles sortiront de ma bouche, comme le dit le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu est présent dans sa parole, dans laquelle nous pouvons connaître qui il est. Nous pouvons marcher sur le chemin pour atteindre son but parce que nous croyons en sa parole. vous croyez dans l'œuvre de Jésus-Christ. Souvenez-vous de cette croix qui a été érigée une seule fois où Jésus fut cloué. La Bible dit qu'en croyant dans la mort de Jésus-Christ crucifié, vous pouvez réellement saisir toute la gloire de Dieu. Vous pouvez le lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 10. Au chapitre 12, verset 2 d'Hébreux, nous lisons que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Il s'agit de notre foi. Il est donc celui par lequel nous pouvons participer à ce salut éternel qui nous permettra de savoir qui nous sommes en vérité. Par la mort de Jésus à la croix, vous allez avoir de la compréhension sur vous-même, sur votre prochain et surtout sur Dieu. Vous trouverez le chemin de Dieu en plongeant toujours plus profondément dans la présence de l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'apôtre Paul n'écrit pas en 1 Corinthiens 2, les versets 10 à 13, que c'est l'Esprit qui nous fait connaître comment nous devons marcher sur ce chemin, afin de saisir le véritable but de Dieu pour l'homme? Aussi, la Bible nous relate que ce chemin n'est pas une route où l'on doit courir, ni une épreuve sportive où l'on doit s'emparer le plus vite possible de toutes les réalités spirituelles, mais c'est la voie où les justes, selon Dieu, marchent, se promènent. Ce chemin est une route très longue, où l'on avance pas après pas jusqu'à ce que l'on atteigne le but. Cela commence toujours quelque part et cela mène toujours autre part. Dieu a toujours ce but devant les yeux et il sait comment nous serons quand nous atteindrons le but. Seulement, Dieu désire que nous prenions ce chemin en marchant. Cette marche progressive correspond à un processus de croissance. Cette route permet de croître, de grandir dans la vérité, selon Éphésiens 4, verset 15. La fleur que je prends dans un bouquet a eu le temps de se développer auparavant. Peut-être vous ne la trouverez pas belle. Il y en a, bien sûr, de plus belles encore. Mais elle est pourtant magnifique dans ce bouquet. Elle a commencé tout petit. Vous auriez pu voir à cette époque une toute petite brindille sortir du sol. Vous n'auriez pas pu prévoir ce qui allait en sortir, à moins d'avoir du discernement. Vous n'auriez pas pensé qu'une fleur pareille allait sortir de cette petite brindille ou d'autres fleurs autour de vous. La planture se développe et en grandissant, la vraie plante apparaît. La fleur que je tiens dans ma main a été coupée, détachée à un moment donné et pour cette raison, elle ne peut plus terminer sa croissance. Mais cela n'est pas l'intention de Dieu. Je reviens un peu plus sur l'homme. Ce n'est pas l'intention de Dieu que la vie de l'homme soit ôtée avant l'heure. L'intention de Dieu est que cet homme finisse entièrement sa croissance, qu'il parvienne à maturité devant Dieu. La fleur de cette plante a atteint sa floraison parce qu'elle a eu le temps pour se développer. Il s'agit ici du temps. C'est ainsi que Dieu le veut. Dans nos vies, il veut que nous nous développions vers sa ressemblance. Comparez Hébreux 5, les versets 12 à 14. En tant qu'un être humain, nous commençons comme un petit bébé, couché dans un berceau, et qui continue à se développer. Il en est de même pour nous, nous grandissons et nous nous développons spirituellement jusqu'à ce que nous ayons atteint l'âge adulte, la maturité spirituelle, c'est-à-dire vivant dans le royaume de Dieu, étant digne sur le plan spirituel, connaissant les choses de Dieu, ayant terminé son développement, sa croissance et étant parfait comme le Père. Ce cheminement n'est possible qu'en étroite dépendance à tout instant avec Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit. Nous participons à la nature divine parce que nous croissons vers cela. c'est un processus continuel de maturation, un mûrissement. Notre croissance démarre toujours quelque part. Cette plante a commencé à un moment déterminé. À un instant donné, la graine a commencé à germer, à se développer pour faire paraître quelque chose d'une petite plante. De même, le chemin de Dieu a un commencement. Ce chemin commence à la repentance, qui est le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Hébreux 6, les versets 1 et 2. Au moment où l'être humain dit « Dieu, j'ai entendu ta voix qui appelle, je sais que ce que tu m'as dit, je sais que ton regard est sur moi, que tu me cherches. » Vous vous tournez vers cette voie, vous vous dirigez vers Dieu et vous découvrez que vous ne pouvez pas aller ensemble, car quelque chose vous sépare, quelque chose est entre vous deux. Un mur se trouve entre toi et Dieu. C'est le mur de transgression, le mur du péché, le mur de toutes tes fautes et des choses qui ont mal tourné dans ta vie. Si tu écoutes, Dieu dit, le mur que tu ressens, le péché que tu vois, ce sentiment affreux que tu éprouves, ce sentiment que ton être intérieur n'est pas si bon, tout cela, je veux l'enlever complètement. Je veux détruire ce mur. Je désire ériger une ligne directe entre moi et toi, de sorte que tu apprennes réellement à me connaître. Au fond, cela devient réalité durant la repentance, car l'être humain a entendu la voix de Dieu et se tourne alors vers lui. L'être humain écoute, réagit et se laisse purifier par Jésus-Christ. C'est le premier acte qui est parti des premiers rudiments dont la Bible parle en Hébreux 6. Différentes expressions dans la Bible sont utilisées pour désigner ces premiers rudiments ou enseignements. On parle de nourriture légère, de lait, aussi indiqué par fondement. Quand vous observez ici le bâtiment, vous ne voyez que la partie visible. Mais si vous aviez été présente à la construction du bâtiment, vous auriez vu les fondations en dessous du sol. Cela est très très important. Nous savons tous que si la fondation n'est pas solide, alors des fissures apparaîtront dans les murs, ensuite le bâtiment bougera, s'enfoncera, ce qui n'arrange personne. Et il en est ainsi pour votre vie spirituelle. La pierre angulaire désigne la pierre qui se trouve à l'angle et sur laquelle vous vous érigez au moyen d'un fil à plomb. Cette pierre d'angle est une image de Jésus-Christ. 1 Pierre 2, versets 4 à 6. Il montre comment l'édifice de ta vie peut être construit. Il indique comment vous pouvez déjà commencer à marcher sur le chemin de Dieu et comment, petit à petit, vous pouvez arriver auprès de Dieu. Il dit, « Je suis le commencement, je suis ce premier, je n'ai pas fait cas de ma vie, j'ai donné ma vie afin que vous puissiez venir et vous promener sur mon chemin, sur le chemin de mon Père. » En faisant cela, vous pouvez naître dans la famille de mon Père, naître de nouveau, naître d'en haut, naître dans le ciel. Dieu veut que cela se réalise en nous. Et là, au début, vous reconnaissez que vous êtes sorti de quelque chose, du péché, du mensonge ou d'une toute autre situation et que vous ne connaissiez pas du tout Dieu. Bien sûr, au fond, vous le saviez bien parce que vous n'entendiez pas Dieu dans votre cœur. Et même si vous savez tout de Dieu, c'est très important que vous l'entendiez dans votre cœur. En vous tournant vers Dieu, vous avez peut-être pris conscience que
que vous deviez vous débarrasser de quelque chose. L'un expérimente ceci avec des larmes, l'autre en est seulement conscient, et encore une autre personne éprouve cela d'une toute autre façon. Cependant, d'une manière ou d'une autre, ils ont eu la notion que quelque chose ne tourne pas rond, qu'ils n'avaient aucun contact avec Dieu. Dans la Bible, le terme de transgression est utilisé pour désigner le fait de tourner en rond sans s'en sortir, d'être dans le pétrin ou de manquer le but. Éphésiens 2, verset 1 indique les transgressions où le péché entraîne la mort. Dans l'Ancienne Alliance, en Ésaïe 59, au verset 2, il est écrit « Ce sont vos injustices, donc les transgressions, les fautes ou les péchés, qui vous séparent de Dieu. » Il y a donc une séparation entre l'homme et Dieu. Si l'homme se convertit, donc se repent, il dira alors « Seigneur, je me convertis à toi, c'est-à-dire je me tourne vers toi. » Alors la barrière de cette séparation est ôtée et le chemin vers Dieu est libre, ouvert. C'est ainsi que l'on sort de la mort, de la séparation éternelle d'avec Dieu, du péché pour entrer dans la vie. La suite de la repentance est exprimée dans le mot « baptême ». Le passage de la mort vers la vie de Dieu découle directement du baptême par immersion. Le baptême illustre très bien des vérités qui sont essentielles. L'être humain est d'abord plongé ou immergé sous l'eau et exprime par cela qu'il est mort. Quand il se lève, il sort de l'eau et il exprime qu'il vit pour Dieu. Quand nous parlons du baptême, nous répétons un mot grec « baptisma » qui signifie « immerger ». Autrement dit, une immersion totale, donc une submersion, c'est-à-dire sous l'eau. Cette manière de faire est aussi décrite dans la Bible et le Seigneur Jésus l'a voulu ainsi. Et le Père désire que nous agissions de même. Jésus lui-même a donné cet ordre. Jésus a dit dans l'Évangile de Marc au chapitre 16, les versets 15 et 16, que celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. De même, l'apôtre Paul le dit à cet homme, le geôlier à Philippe, en acte 16, les versets 30 à 33, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et aussitôt il fut baptisé. Le baptême est un des éléments nécessaires pour réaliser pleinement ce salut. Le baptême n'est pas une affaire concernant quelques différences de doctrine. Non. C'est un acte d'une signification extrêmement profonde et qui peut avoir des répercussions importantes dans la vie d'un être humain. Lorsque je me faisais baptiser par immersion, une rupture avec ma famille,